Radio G. www.radio-g.fr. Le Labo des Savoirs, l'émission qui explore tous les champs de la science et invite les chercheurs au microscope, c'est tous les samedis à 13h sur Radio G 101.5 FM. Chroniques, reportages, interviews, expériences radiophoniques. Et retrouvez toutes les émissions en podcast sur le site internet labodessavoirs.fr.
Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
Mars était vide avant notre arrivée. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne s'y était jamais rien passé. La planète avait connu des accrétions, des fusions, des tourbillons qui s'étaient refroidis pour laisser une surface marquée par d'immenses cicatrices géologiques, cratères, canyons, volcans. Et tout cela était survenu dans l'inconscient minéral, sans être observé, sans témoin, sauf nous, qui avions tout vu depuis la planète d'à côté et seulement durant le tout dernier instant de sa longue histoire. Nous sommes la seule conscience que Mars ait jamais possédée. Mais les sondes Mariner et Viking transmirent leurs clichés et tout fut changé. Notre connaissance de Mars en fut formidablement multipliée. Nous en savons désormais des millions de fois plus sur cette planète qu'auparavant. C'est un monde nouveau qui défilait devant nos yeux, un monde insoupçonné jusqu'alors. Kim Stanley Robinson, Mars la Rouge. Occasion, le Labo des Savoirs s'est associé avec Robin Isnard de la chaîne Tout se comprend pour vous proposer un live Twitch que vous pouvez retrouver bien sûr sur sa chaîne, ainsi qu'un podcast en deux parties pour tout savoir de Mars et de la mission Mars 2020. Nous avons donc le plaisir d'accueillir Suzanne Conway du laboratoire de planétologie et de géodynamique de Nantes, ainsi que Franck Montmessin du LATMOS, le laboratoire Atmosphère Observation Spatiale à Guyancourt. Suzanne est géologue de formation, médaille d'argent du CNRS et a travaillé notamment sur la géologie de Mars. Franck Montmessin, pour sa part, a travaillé sur l'instrument SuperCam de Persévérance. Mars 2020. Pourquoi persévérer dans l'exploration de la Rouge ? Première partie. Bonne écoute au Labo des Savoirs.
Les voies de la recherche scientifique au Labo des Savoirs.
Voilà, Dounia, je te laisse éventuellement poser la première question. Si tu veux bien.
Merci Robin. Et ma première question sera pour Suzanne, parce que c'est bien joli depuis tout à l'heure, on parle de Mars, de ses merveilleuses roches, de peut-être son atmosphère, qu'on verra un petit peu plus tard dans cette compréhension. Mais si Mars a beaucoup fasciné, que ce soit par Bradbury ou les images qui ont été envoyées par Curiosity, à quoi ça ressemble finalement Mars si jamais un jour, nous, humains et humaines, qui ne sommes pas Elon Musk, par exemple, auront peut-être la chance de fouler le sol martien.
Moi, j'ai que des infos des rovers qui sont sur place et aussi des instruments qui sont en orbite. Je suis jamais allée, donc je peux pas dire exactement quoi ça ressemble. Mais pour moi, le premier pas sur Mars, bon. Je crois que les premiers humains vont être étonnés que ça ressemble, comme je disais un peu dans l'introduction, que Mars ressemble un peu à la Terre. Mais pas exactement, parce qu'il n'y aura pas des arbres. Il y aura beaucoup moins de vert.
D'ailleurs, d'où vient la couleur rouge de Mars? Parce qu'on dit toujours la planète rouge, mais pourquoi est-ce qu'elle est rouge?
on dit toujours que c'est fer, l'oxyde de fer. Voilà. Donc, l'oxyde de fer, c'est la rouille. Mon accent anglais pas terrible. Rouille, c'est très difficile à dire.
Il y a des prononciations. Certains mots.
Il y a certains mots, bon, voilà. Donc, on passe. Oxyde de fer, ça, c'est plus simple. c'est la rouille, donc...
qui est présente dans ces roches à sa surface, en fait.
Oui, donc, et surtout, c'est pas forcément dans les roches, c'est plutôt dans la poussière qui trouve partout. Parce que Mars, on n'a pas beaucoup... Il n'y a pas d'eau liquide qui coule sur la surface actuellement. Et donc, on a beaucoup de poussière. Donc, la poussière, c'est simplement des roches qui sont... des petits morceaux de roche, de roche décomposée, la roche, l'abrasion des roches par les vents, bah, ça crée la poussière. On voit ça, par exemple, sur Terre, quand le vent souffle du Sahara, en France, parfois on a une petite pellicule de poussière qui se pose sur des pare-brises, sur d'autres surfaces. C'est ça, mais sur Mars, il y a beaucoup plus. Donc, en fait, le rouge, c'est la poussière. Et la poussière... Et donc, une autre différence qu'on va constater immédiatement quand on atterrit, c'est que quand on regarde le ciel, c'est pas bleu, c'est un peu rougeâtre. Et donc, c'est aussi cette poussière rouge dans l'atmosphère qui donne ce teint au ciel aussi. Mais en fait, si on prend une brosse ou d'autres choses, ou quelque chose pour gratter un peu les roches, les cailloux qu'on se trouve à la surface, en fait, on retrouve d'autres couleurs. Donc, c'est pas que rouge. Il y a d'autres couleurs sur Mars. Et on voit ça aussi avec des différents rovers, des différents robots qui sont posés sur la surface, ils ont des instruments qui peuvent abrader la surface des cailloux. Et en fait, on retrouve des blancs, des noirs, un peu de violet. Voilà. Donc, c'est la poussière qui rend tout un peu rouge.
Ok. Ouais, ça se voit sur les paysages qui sont pris effectivement par les rovers depuis la surface. Et, les images sont assez incroyables d'ailleurs de la haute définition de certaines caméras qui ont pris des photos assez folles. Et c'est vrai, quand on regarde des paysages martiens, bah, ils n'ont pas l'air si différents que de certains endroits sur Terre. Hein. C'est ça, il y a même des fois, pour étudier le sol martien, on utilise des vrais endroits sur Terre, non? C'est ça?
Exactement, oui. Souvent dans le désert d'Atacama qui se trouve en Chili, une des zones les plus arides sur Terre. Mm-hmm. Et ça ressemble vachement. Hein. Et aussi là, il y a beaucoup de poussière. Et la poussière est aussi rouge.
Ouais.
C'est vraiment, ça frappe vraiment, c'est juste le ciel est bleu.
Et tu avais dit que Mars, c'est un gros tas plein de cratères. Et est-ce qu'on retrouve aussi un petit peu comme sur Terre, des vallées, des montagnes, vraiment un relief?
Ah oui. La plupart des reliefs sont des remparts des cratères. Mais si nous, on était sur la surface, on ne constatait pas que c'est un cratère d'impact forcément, mais il y a aussi des vraies vallées, des vallées creusées par d'autres choses que des cratères d'impact, aussi des failles tectoniques, des trous dans sa face par les mouvements de sol, quoi.
Ouais.
Donc ça, c'est un rempart d'un cratère. Donc le Valais coupe ce rempart. Il érode le chenal dans le rempart. Et après, on a une espèce de cône.
Une sorte de delta, non? C'est pas...
Bon, c'est un delta, oui. Mais bon, j'essaie de dire en son sens. C'est un delta. Et oui, c'est un delta.
J'ai spoilé. Oui. Ah, je m'excuse.
Ouais, exactement.
C'est pas G0, ça?
C'est G0, oui. Je suis arrivée par fur et à mesure, j'étais juste en train de...
Ah oui, j'ai gâché toute l'histoire, je m'excuse.
Oui, donc ça c'est le site d'atterrissage de Perseverance.
Ouais.
Et qui a été choisi parce qu'il y a ce supposé delta. Donc on ne peut pas dire, toujours dans la science, on dit peut-être, etc. Donc il n'y a jamais une certitude à 100%. Mais bon... C'est un cratère qui reçoit une vallée et la sortie de ce cratère. Donc, il y a une autre vallée qui est à l'autre côté, qui est un peu à l'est,
d'accord,
qui sort de ce cratère. Mais la sortie est à une élévation plus haute que l'entrée.
Ok.
Bah, à peu même hauteur, mais bon, le fond de cratère est plus bas. Donc ça veut dire que si un vallée qui rentre, un vallée qui sort, et que le cratère est plus bas que ces deux vallées, donc pour pouvoir sortir, il fallait qu'il y aura un lac dans ce cratère pour qu'il puisse sortir à l'autre côté.
Un lac de quoi? Un lac d'eau?
Un lac d'eau, oui.
De liquide, quoi. Donc ça veut dire que c'est les traces de l'existence d'un grand lac au niveau de ce cratère-là, quoi, c'est ça?
Exactement, et donc ça va être un delta en fait, c'est où les sédiments sont posés par une rivière qui jette dans un lac.
D'accord.
Ou un océan.
Ouais.
Et donc là on est dans le cadre d'un lac plutôt qu'un c'est un grand lac quand même.
D'accord.
Mais on n'est pas dans le cadre d'un océan comme bon par exemple le Mississippi, le delta de Mississippi. Mmh. ça c'est dans l'Atlantique, c'est pas on n'est pas dans ce gamme de
ouais, de ce type de
taille
de surface
et,
d'eau,
ouais. Et, ouais exactement, et la profondeur n'est pas la profondeur d'un océan, on parle plutôt des centaines de mètres plutôt que des kilomètres.
Il y avait une question à propos de justement de la couleur rouge sur laquelle on s'est pas mal attardé, parce que la rouille, du coup, tu l'as dit, c'est un oxyde de fer, donc c'est du fer avec de l'oxygène collé dessus, entre guillemets, pour dire les choses un peu de manière vulgarisée. Et donc, est-ce que ça veut dire que avant il y avait de l'oxygène dans l'atmosphère qui a pu être justement oxydé, enfin se coller justement sur le fer disponible? Est-ce que c'est un indice de présence d'oxygène passé dans l'atmosphère?
Une réponse possible à cette question qui est une bonne question, c'est qu'effectivement il est possible que l'oxygène ait eu le temps de s'accumuler. Parce qu'on a vraiment la preuve qu'une partie de l'eau qui existait avant sur Mars est partie. Mais pour ce qu'on en voit au jour d'aujourd'hui, on voit bien que l'eau qui est fabriquée à partir de deux atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène, l'hydrogène arrive à s'enfuir assez facilement,
ouais.
Beaucoup plus facilement que l'oxygène parce qu'il est plus lourd. L'eau en fait se transforme en hydrogène et en oxygène, et alors que l'hydrogène part, quitte la planète, l'oxygène, lui, reste. Donc, il est possible que sur des échelles de temps très longues, l'oxygène qui s'accumule dans l'atmosphère finisse par interagir avec la surface. Il y a aussi un peu de vapeur d'eau, donc tout ça peut favoriser des phénomènes d'oxydation, parce qu'on a l'oxydation. L'atmosphère de Mars est une atmosphère oxydante. Il y a pas mal de composés oxygénés. On a même de l'ozone. Alors, les gens sont toujours étonnés. Mais oui, on a même une couche d'ozone, même plusieurs en fait, sur Mars, donc composée de trois atomes d'oxygène. Et donc voilà, donc une explication potentielle à ce que Mars soit rouge, c'est peut-être une accumulation progressive d'oxygène,
ouais,
qui a fini par rouiller un peu toute la surface. Et puis l'érosion, elle, a arraché tous les grains des roches et voilà, et a rendu Mars très très sale.
Ok, bah merci pour ces explications. On comprend un peu mieux du coup d'où vient cette couleur rouille.
savoir. Attention, recherche en cours.
C'est vraiment une planète qui n'est pas si morte que ça. Il y a des vents, il y a une atmosphère qui reste encore ténue et il y a beaucoup d'objectifs, enfin, il y a beaucoup de choses à étudier sur Mars. Et c'est la raison pour laquelle on a envoyé plein de rovers. Il y a Viking, il y a Curiosity, bien évidemment, qui est toujours présent. Il y a eu Opportunity et du coup, Perseverance, le petit nouveau, qui devrait atterrir normalement jeudi. On croise les doigts pour que tout se passe bien. Mais pourquoi est-ce qu'on insiste autant à envoyer des rovers sur Mars? Est-ce que c'est parce qu'on y cherche encore des traces de vie, une émergence de la vie ailleurs que sur Terre? Est-ce que ce serait la preuve vraiment que la vie peut exister ailleurs que chez nous?
Oui, c'est un driver très important, c'est de rechercher si la vie peut être née d'ailleurs que sur Terre. Et Mars, c'est plus proche, c'est plus facile que, par exemple, d'envoyer un sonde à Encelade ou d'autres décors plus loin où on se pose peut-être il y a un océan, souterrain, on peut dire. Là, c'est vraiment compliqué. Hein. mais sur Mars aussi, il y a un avantage, c'est qu'on a des roches qui sont préservées très très longtemps. Sur Terre, on a ce tectonique de plaques qui avale en fait tous les cailloux qui sont produits à la surface. Donc, par exemple, si on avait un lac comme Jezero, comme dans le crater de Jezero sur Terre, avec des dépôts sédimentaires qui s'accumulent, donc des cailloux qui sont érodés dans les bassins versants, qui sont transportés et déposés, et peut-être s'il y avait vie dans ce lac, des fossiles piégés dans ces strates de sédiments posés au fond du lac, sur Terre, il y a 2-3 milliards d'années, ce lac, maintenant, aurait été recyclé dans la tectonique de plaques. Ça aurait été détruit.
Oui.
On n'aurait rien... On a très, très peu de roches, surtout sédimentaires, qui n'ont été pas subies à la tectonique de plaques. Ça veut dire que était transformé. On a trois espèces de cailloux, des métamorphiques, des sédimentaires et des volcaniques. Donc les sédimentaires, quand ils sont soumis à des hautes pressions et des hautes températures, par des tectoniques de plaques, deviennent métamorphiques. Et donc on perd
l'information,
on perd des fossiles.
Parce que
on perd des informations.
Ouais. Parce que là, en fait, ce qu'il faut comprendre du coup, c'est que dans le cratère en lui-même, la roche serait relativement ancienne, enfin, on pourrait presque dire primitif, c'est peut-être un mot un peu grossier, mais du coup, du fait que, pour résumer, si j'ai bien compris ce que tu as dit, du fait de cette tectonique de plaques très limitée, les roches n'ont pas l'occasion d'être modifiées de manière très importante par différents phénomènes physico-chimiques, de pression, de température élevée, etc. Et donc, les roches qu'on étudie, en particulier celles qu'on va étudier grâce au rover dans le cratère G0, ce sera des roches peu altérées qui vont nous donner des informations sur vraiment la situation passée, en fait. C'est ça. D'où lié au fait de la recherche de la vie qui a pu éventuellement être présente il y a des milliards d'années. Je vais justement faire une passe à Franck là-dessus, parce que on parle de recherche de la vie, mais il faut quand même certaines conditions pour que Mars ait pu abriter la vie d'une manière ou d'une autre. Et en ce qui concerne l'atmosphère finalement de Mars et des conditions climatiques, est-ce que il y a de bons indices qui nous laissent penser à cette hypothèse-là aujourd'hui, ou ça reste quand même de la fiction et juste un désir de chercheur, quoi?
Non, en fait, je pense qu'il y a un vrai désir de faire se rejoindre deux communautés, la communauté des géologues et des minéralogistes, qui voient bien que Mars a à un moment donné rencontré de l'eau liquide en très grande quantité. On ne parle pas de la quantité qu'on voit actuellement, qui est essentiellement concentrée au pôle sous forme de calottes glaciaires.
Ouais.
Et qui, si on venait à les faire fondre, recouvrirait Mars de quelques mètres d'eau seulement, à comparer avec les kilomètres que l'on a, nous, sur Terre. Par contre, on voit une surface qui, elle, a été vraiment modelée dans plein d'endroits par l'eau. Et donc, bon, Suzanne a bien expliqué que, en plus, on a la chance de voir des choses qui ont pu se passer il y a très, très longtemps. Et donc, depuis, en fait, assez longtemps, les gens comme moi qui essaient de comprendre comment le climat martien fonctionne se sont aussi intéressés à des conditions climatiques potentielles passées. À une époque où on pense que Mars avait une atmosphère qui était beaucoup plus dense. Donc avec une atmosphère de dioxyde de carbone, sachant ce qu'on sait du dioxyde de carbone sur Terre, on peut imaginer que l'effet de serre a pu aider à ce que Mars soit moins froide qu'elle est aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, la température moyenne est proche de moins 50, moins 60 degrés. Ça a dû rester comme ça pendant très très longtemps, hein. Et il faut remonter à des temps très anciens pour potentiellement avoir une atmosphère beaucoup plus épaisse, avec une capacité à soutenir un effet de serre suffisant pour que l'eau qui présente reste liquide et puis qu'elle elle ne parte pas entièrement dans l'atmosphère et puis après fasse son chemin jusque vers l'espace. Et donc il y a tout un pan de recherche qui est quand même axé sur ces questions-là. À l'aide de modèles de climat qu'on utilise pour la Terre. Là, on utilise vraiment des outils qui ont été développés pour étudier le climat de la Terre, qu'on a essayé de transposer pour étudier le climat de Mars actuel, dont on s'est dit qu'il pourrait être utile pour étudier des climats martiens potentiels anciens, et en jouant justement sur la quantité d'atmosphère présente. Et donc là, on parle de multiplier la quantité d'atmosphère par 100, par 1000, par rapport à ce qu'on a actuellement, pour essayer d'aider à l'atmosphère de se réchauffer. Alors, le problème qu'on a rencontré là-dessus, c'est que quand on a fait les premières études sur ces sujets, on a fini par se rendre compte que avoir plusieurs barres d'atmosphère suffisait même pas pour, a priori, élever la température moyenne en surface au-delà du point triple, c'est-à-dire au-delà de 0 degré Celsius, ce qui est, a priori, un frein pour que l'eau puisse subsister. Et puis, on a invoqué différentes possibilités, d'autres facteurs qui pourraient avoir aidé la température à s'élever. La présence de nuages, en fait, même de nuages de dioxyde de carbone, la présence de nuages d'eau aussi. Et donc, tout ça combiné pourrait éventuellement fournir un scénario climatique ancien où pendant un certain temps, le climat martien a fourni des conditions habitables au sens où l'eau liquide a pu résister aux conditions dans lesquelles elle était plongée et former des étendues d'eau liquide très grandes et relativement pérennes dans le temps.
Il y avait une question qui allait même encore au-delà par rapport justement à cette idée de fossiles qui pourrait être encore présent. Sur Terre, on sait que la matière organique, quand elle est bien transformée, justement au départ, elle peut être stockée dans les roches sédimentaires dont tu as parlé tout à l'heure, et puis par un jeu de température, de pression, elle finit par être modifiée pour éventuellement devenir du gaz naturel ou du pétrole. Est-ce que c'est des choses qu'on peut imaginer trouver sur Mars ou là, encore une fois, à cause de ces mécanismes qui sont différents au niveau tectonique, c'est pas vraiment envisageable, quoi.
En fait, parce que il y avait assez récemment des détections de méthane dans l'atmosphère. Une des hypothèses pour cette détection de méthane, c'était en origine biologique. Donc là, bon, c'est un peu en liaison avec la question. Hein, c'est un peu... Mais pour du vrai, les conditions de pression et température subies par des roches sont probablement pas assez pour produire le pétrole. Bon, voilà, même si on avait assez de matière organique. Mais quand même, vu qu'on a vu la méthane dans l'atmosphère martienne, ça fait penser aussi qu'il y a une origine pour ça. Donc, il y avait plusieurs hypothèses pourquoi on voyait cette méthane dans l'atmosphère martienne. Et un des possibles, c'est qu'il y avait quelque chose par rapport à la vie. Mais bon, il reste encore pas mal d'explications non biologiques, ça veut dire, mais qui sont aussi passionnantes pour moi en tant que géologue, parce que ça veut dire que la planète est vivante sous la croûte.
Ouais.
Ça veut dire qu'il y a des choses qui bougent, il y a des réactions chimiques qui se font. Si c'est la vie ou pas la vie, bon, en fait, moi je trouve c'est intéressant des deux côtés. Donc, Je suis impliquée dans une mission qui s'appelle TGO, qui est en orbite, qui est la Trace Gas Orbiter, qui était envoyée pour en fait voir si ces méthanes existaient. Et en fait, bon, il y a toujours des oui et des non. On n'est toujours pas sûr.
Ouais, c'est compliqué.
Si ça existe vraiment, est-ce que nos instruments sont pas assez performants?
Ouais. Franck, un avis là-dessus?
Avant bah oui, parce que je travaille quasiment tous les jours sur TGO pour détecter le méthane. D'ailleurs, un article que je viens de soumettre à une revue française Astronomie Astrophysique sur ce sujet. Mm-hmm. Donc, je pense que l'histoire du méthane, elle est assez intéressante à raconter. Et on peut remonter le fil de l'histoire il y a plus de 40 ou 50 ans en arrière. Parce qu'en fait, une des premières mesures qui a été faite autour de Mars, c'était Mariner 5, qui en 67 passe à côté de Mars, utilise des méthodes qu'on appelle de spectroscopie, c'est-à-dire qu'on regarde la lumière qui est soit émise de Mars, soit qui est renvoyée par Mars depuis le Soleil. Et les chercheurs, quasiment dans la foulée, s'exclament « On a vu du méthane sur Mars ». Et il y a toujours eu cet attrait entre le méthane et l'hypothèse de la vie. Là, on a toujours fait un lien qui était quasi direct, pas toujours justifié, mais en fait, on se base sur l'origine du méthane terrestre. Et on sait que l'essentiel du méthane qu'on a dans l'atmosphère, il vient de la vie. Donc, et au bout de 2 jours, ils ont dit non, finalement, on s'est trompé. On a confondu ça avec le dioxyde de carbone, avec les nuages, etc. Bon, voilà. Donc, ça commence comme ça. Et puis après, on attend une trentaine d'années. On attend, en fait, grosso modo, quelques tentatives infructueuses ou encore un petit peu controversées se déroulent. Et voilà, et l'idée du méthane, je dirais, reste assez éloignée. Mais en 2004, on a 3 équipes. Une liée à Mars Express, 2 autres liées à des groupes d'observateurs qui regardaient Mars depuis la Terre. Et les 3 dans leur coin disent « on a vu du méthane ». Et alors là, ça a été l'émoi au sein de la communauté scientifique. Moi, je me rappelle, à l'époque, j'étais jeune, enfin post-doctorant. Il y avait une conférence bien connue des gens qui font de la planéto, qui s'appelle le DPS, qui était à Louisville, dans le Kentucky, et où ce fameux Mike Mouma, que beaucoup après ont appris à connaître, nous révèle qu'il avait trouvé du méthane dans des proportions absolument gigantesques. Et le démarrage de l'histoire a été vraiment à cette période-là, 2003-2004. Et depuis, on vit un peu dans une sorte de marasme scientifique, c'est-à-dire qu'on a des indications que le méthane est présent. Donc, pour l'essentiel, toutes les observations qui ont été faites ont été plus ou moins contredites, parce qu'il y a eu des confusions avec du méthane terrestre, parce que les outils d'observation n'étaient pas suffisamment performants. Et puis on a eu Curiosity qui est venu en 2012 nous révéler 3 ans après cette posée que il avait aussi vu du méthane. Et donc on a en fait une sorte de schisme au sein de la communauté, avec d'un côté des gens qui sont vraiment intimement convaincus que le méthane est présent, qu'on l'a mesuré, qu'on n'arrive pas à l'expliquer, parce que tous les gens qui font de la chimie atmosphérique vous disent « mais on ne sait pas comment on peut maintenir le méthane de cette manière-là ». Le méthane, normalement, il est censé durer super longtemps, il a des durées de vie de plusieurs centaines d'années. Pourquoi est-ce qu'on le voit apparaître ici, disparaître, etc. C'est vraiment un des objets les plus mystérieux et qui a été le plus sujet à controverse au cours des dernières années. Alors il se trouve que, comme l'a dit Suzanne, on a cet orbiteur TGO qui a quasiment été envoyé à cause du méthane martien. Parce qu'on s'est dit, finalement, et ça renvoie à des vieux travaux qui ont été faits à peu près au même moment où Mariner 5 faisait cette fausse mesure de méthane, par des chercheurs, en particulier Lovelock, qui disaient « mais si vous voulez, on cherchait de la vie sur une planète, regardez dans l'atmosphère, parce que c'est clair que quand vous avez de la vie, vous avez un déséquilibre, et le déséquilibre, on le voit dans l'atmosphère, dans la composition ». Et donc, derrière, on a imaginé qu'avec un orbiteur comme le Trace Gas Orbiter, on pourrait éventuellement faire un inventaire exhaustif avec des capacités de détection ultra performantes pour être sûr de ne louper aucun gaz, même les gaz qui sont émis par les volcans, par les fissures, quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, tout type de gaz qui sortent un petit peu de l'ordinaire par rapport à ce qu'on connaît habituellement. Et en se disant, de toute façon, avec ces instruments-là, on trouvera le méthane s'il est présent. Mais on fait chou blanc. Voilà, on fait chou blanc depuis que TGO est en orbite. On a deux instruments qui ont à peu près le même niveau de performance, qui font à peu près, pour vous donner un ordre de grandeur, 1000 fois mieux que la première fois où ça avait été mesuré par Mars Express en 2004. C'est-à-dire qu'on a des moyens de détection qui sont autrement plus performants au jour d'aujourd'hui. Mais on n'arrive pas à le voir. Alors le problème, c'est qu'on pourrait se dire, bon ben, autour de là où Curiosity a fait ses mesures, c'est-à-dire dans le cratère Gale, il y a peut-être un truc un peu particulier, le méthane apparaît, après disparaît, donc il faut mesurer aussi. Nous, on a essayé, le problème, c'est que Mars n'est pas super coopératif, la poussière dont on a parlé avant, elle nous gêne pour faire nos mesures. Donc on a une méthode de détection qui requiert qu'on ait le soleil derrière l'horizon pour qu'on puisse voir l'atmosphère et qu'on puisse traverser toute l'atmosphère pour augmenter les chances d'apercevoir des gaz en très faible quantité. Le problème, c'est que on ne peut pas descendre en dessous d'une certaine altitude ou très rarement, et là les conditions d'observation sont dégradées. Donc si vous voulez, quand on est un scientifique raisonnable, on dit pas de toute façon Curiosity se plante et c'est des incapables, ils ont rien compris, nous on sait qu'il y a pas de méthane et le débat est clos. Donc on peut pas raisonner comme ça. Donc on essaye d'améliorer un peu les scénarios chimiques potentiels, hein. On n'y arrive toujours pas, on a toujours pas de bonne explication. Et puis on se dit bon bah c'est comme c'est. On va essayer dans le futur de se rapprocher le plus possible pour voir si on peut encore plus se confronter aux mesures qui sont faites par Curiosity. Peut-être qu'à un moment donné, la contradiction sera tellement forte et tellement qu'il faudra remettre en cause l'un des deux, c'est-à-dire celui qui n'en voit pas ou celui qui en a vu. Bon, il se trouve que voilà, on en est là aujourd'hui. Alors l'histoire est encore, à mon avis, assez longue, hein, parce que c'est pas dit qu'on finisse réellement à bien observer sur Curiosity. A priori, on n'aura plus beaucoup d'occasions parce que Perseverance ne va pas mesurer le méthane en surface, n'aura pas de vérification. Hein,
ça, dommage.
Je peux trahir déjà le. Voilà, la question. Voilà, donc on n'aura pas cette capacité. Alors peut-être qu'on pourra tenter, malgré tout, avec l'autre rover qui devrait atterrir normalement à la fin 2022, c'est ExoMars, et là on aura normalement une capacité tout à fait correcte de mesurer le méthane. Ouais. Sans forcément le faire aussi bien, mais on n'aura pas forcément besoin de le faire aussi précisément. Je veux dire, si on a une bonne mesure, une deuxième bonne mesure faite du sol, ça devrait être suffisant, avec une technique assez différente.
Donc, okay.
Voilà.
Merci beaucoup pour ce récit incroyable du méthane. Je pensais pas qu'on allait résoudre, enfin qu'on allait aborder ce sujet-là en particulier. Toi, tu discutes carrément même de la détection en tant que telle. Et alors que moi, je pensais qu'on était à peu près sûr qu'il y en avait, et que ce qui était plus discuté, c'était l'origine. Est-ce que ça vient d'organismes vivants, ou est-ce que c'est purement quelque chose qui vient de processus géologiques, par exemple?
Bien sûr.
Et donc ça, et même si on en détecte en fait du méthane, faut pas non plus penser que ça vient d'organismes
absolument
vivants.
Absolument. Ça, c'est le danger. Mais on a vu le débat sur la phosphine récemment. Voilà. Donc on est toujours tenté. Voilà. C'est normal. C'est un tropisme qui est assez naturel au fond, mais notamment chez les médias. C'est-à-dire que quand on dit il y a une hypothèse, les médias ils entendent il y a quelque chose, quoi.
Ah,
y a,
ouais, bon.
Et pour le méthane, de toute façon, dès le départ, ceux qui ont révélé l'avoir observé ont dit bon bah il y a trois hypothèses: un apport cométaire, une source géophysique et la vie. Voilà. Donc une fois qu'on a dit ça, et quand ils allaient dans la vie, les hypothèses qu'ils envisageaient, c'était de la dégradation de biomasse, donc voilà, éteinte, et voilà, et qui se dégrade comme le gaz, ce qui fabrique le gaz naturel chez nous, hein, ou de la vie en sous-surface qui s'alimente, qui arrive à trouver des petites niches avec un peu de chaleur, géophysique, voilà, et puis on arrive à trouver donc ça c'est resté dans parmi les trois scénarios. Mais très honnêtement, franchement, s'il devait vraiment y avoir du méthane, il y a plus de chances pour que soit viennent de l'extérieur, parce qu'on a quand même de la matière organique qui bombarde en permanence Mars. Donc, à un moment donné, que voilà, ça puisse devenir un peu, un tout petit peu de méthane dans l'atmosphère, c'est pas non plus complètement stupéfiant. Et où les volcans sur Terre, ils dégazent du méthane aussi. Donc, les émanations de la croûte, elles peuvent aussi envoyer du méthane dans l'atmosphère. Donc, avant d'aller chercher la vie, il y a des choses. Alors, la bonne nouvelle, c'est que normalement, même si ça prête un tout petit peu à ambiguïté, si on arrive à détecter du méthane et qu'on regarde ces isotopes et qu'on trouve dans la même famille d'hydrocarbones des molécules un petit peu plus complexes, eh ben on arrive à spécifier d'où vient l'origine. Ça, c'est quelque chose qui prête encore un petit peu à discussion, parce qu'il peut y avoir un peu d'ambiguïté résiduelle. Mais voilà, donc ça faisait aussi partie des scénarios pour envoyer des géos, c'était d'avoir une capacité de faire des mesures, des isotopes. Donc ça réclame vraiment des moyens de détection et extrêmement performants.
Plus difficile.
Extrêmement poussé pour faire ce genre de mesures. Éventuellement aider, je dis bien, à clore le débat.
Ouais, voilà, c'est ça.
Il y aura encore longtemps un débat, ça, Franck, tu l'as rappelé, le débat de la phosphine, la détection de phosphine sur Vénus qui était supposée nous indiquer la présence d'une forme de vie. On n'est même pas sûr qu'il y ait de la phosphine, on n'est même pas sûr, même s'il y en a, que ça provient d'une source de vie. Voilà.
Donc, ouais. Absolument,
le débat est infini.
Alors, on pourrait faire une soirée là-dessus, hein. Sur la phosphine vénusienne.
To hear it ring, you told me you were better off alone. I never knew that tears could sting. I'm on the roof and I'm staring at the stars, looking down at all the cars. I can see you so old and gray and beat. It closes in and makes me wanna suffocate. And you just live across the street, but that's a billion miles away.
Oh, recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs.
Mais en tout cas, c'est vrai que ça motive à lancer des missions scientifiques, à concevoir des instruments. Et quand on conçoit des instruments spatiaux, ça prend des années. C'est pas une décision qu'on prend à la légère le matin en se levant et en se rasant devant le miroir. Et du coup, Curiosity est déjà passé par là, donc Perseverance et donc le rover qui va normalement atterrir sur Mars. Quelles ont été les motivations pour envoyer un nouveau rover? Quels sont les objectifs un peu de Perseverance?
Un des objectifs premiers, c'est en fait de récolter des échantillons, des cailloux martiens, pour pouvoir déstocker, pour être récupéré par une mission qui va arriver après. Donc ça ne veut pas dire que Perseverance va les amener sur Terre, non. Là, c'est vraiment les stocker pour pouvoir les ramener sur Terre plus tard. Donc là, c'est un des objectifs principaux de ce mission, c'est le Mars Sample Return, ou MSR.
Perseverance ressemble beaucoup à Curiosity, mais en fait, est quand même assez différent, parce que Perseverance embarque moins de charges utiles, c'est-à-dire moins d'instruments, et par exemple, tout ce qui a servi à faire le prélèvement, à faire de la mesure de ce qu'on appelle spectrométrie de masse, où on a vraiment une capacité pour voir comment se décomposent les roches qu'on prélève, de voir éventuellement détecter de la matière organique, qui était un instrument qui était extrêmement lourd, 40 kilos, en fait, il a été remplacé par tout le système de prélèvement et de confinement dans les containers. Et donc, on est un peu moins armé, on va dire, d'un point de vue des instruments pour adresser ce genre de questions. Mais le parti pris, c'était de dire d'utiliser vraiment des instruments très très pointus sur avec un fort potentiel pour détecter de la vie éventuellement, mais sachant que de toute façon il n'y aura jamais d'annonce de détection de la vie sur Perseverance, parce que c'est pas son but, hein. Lui il vient pas pour chercher la vie, il vient pour chercher des échantillons qui potentiellement, une fois ramenés sur Terre avec les méthodes d'analyse, pourraient révéler de la vie. Donc ça va être des fortes tendances, mais ça sera jamais une détection pure et dure, à moins où alors vraiment ça serait formidable, mais c'est pas vraiment l'idée. L'idée, c'est toute l'architecture de mission qui se construit à partir de Perseverance et qui mènera in fine après 2026 normalement à faire revenir les échantillons qui seront prélevés.
C'est marrant parce que en lisant le dossier de presse, c'est pas du tout comme ça que je l'avais vu. Enfin, c'est pas comme ça qu'on le vend médiatiquement. Enfin, c'est pas la priorité. Je l'ai jamais vu comme l'objectif prioritaire, ce retour d'échantillons. C'est pas le truc qu'on met en premier, en avant. C'est plus recherche de vie et après, éventuellement, on ramène des échantillons. Mais c'est intéressant d'avoir votre retour là-dessus parce que, effectivement, comme tu l'as dit, il n'y a pas de spectrométrie de masse. On va pas trop prendre le temps d'expliquer ce que c'est, parce que c'est une technique relativement complexe, mais très puissante pour justement caractériser la matière, essayer de savoir de quoi sont faits les roches en termes de matière organique. Et comme il n'y a pas cet instrument-là, pas de spectrométrie de masse à bord du rover cette fois-ci, ça limite en fait la connaissance qu'on a de cette matière organique qu'on peut détecter. Et donc ça sera très difficile, comme tu l'as dit Franck, de savoir si c'est vraiment une matière complexe qui pourrait s'apparenter à quelque chose de vivant ou pas.
Si je peux intervenir, je pense que même dans le cadre de MSL et même avec la spectrométrie de masse, je ne pense pas honnêtement qu'on aurait la capacité aujourd'hui de dire qu'on a détecté du vivant. Je crois que il faut vraiment se rendre compte que c'est un tel sujet, c'est tellement important. On peut pas simplement déléguer cette question-là à un rover. Il y a besoin de l'appareil humain pour faire cette distinction et pour faire cette détection. Donc, si vous voulez, si on n'avait vraiment pas le choix, c'est-à-dire que si on avait, par exemple, on pourrait se poser la question typiquement pour les exoplanètes, c'est-à-dire que avant de pouvoir ramener un échantillon d'une exoplanète ou faire ce genre de choses, on se basera peut-être sur des techniques qui font juste appel à de la télédétection ou de la mesure qui n'est pas faite directement par l'homme. Mais dans le cas martien, c'est différent. Dans le cas martien, ce qui risque de se passer, le scénario le plus probable, c'est qu'on soit vraiment proche d'une biosignature. parce qu'on aura quand même d'excellents instruments, hein, entre Supercam et les deux petits instruments qui sont montés sur la tourelle, et qui sont Pixel et Sherlock, qui sont vraiment des instruments qui sont dédiés à ça, hein, c'est-à-dire qui vont chercher des choses qui pourraient nous faire penser qu'on a affaire à de la matière organique, éventuellement à des modifications induites par des micro-organismes. Voilà, mais eux, ils vont être là pour donner en fait le signal, pour dire cet échantillon-là, il faut qu'on le ramène pour qu'on fasse l'analyse. Et c'est tout le principe. C'est pour ça que on parle pas forcément directement du retour d'échantillons et de persévérance. C'est néanmoins la première brique, et une grosse partie de persévérance, c'est vraiment le stockage des échantillons. Il y en aura plus d'une trentaine qui sont vraiment mis dans le châssis, à l'intérieur du châssis, et qui seront après récupérés par un autre rover, et puis après envoyés en orbite autour de Mars pour repartir vers la Terre dans la foulée. Donc c'est vraiment, c'est pour ça que si on était capable de dire avec des instruments qu'on envoie sur une planète, de dire on a trouvé de la vie, on n'aurait pas fait ce retour d'échantillon.
Oui, bien sûr.
On sait qu'on aura toujours affaire à une ambiguïté, on sait qu'on aura toujours besoin d'avoir des critères hyper spécifiques, etc. Et il faut ramener les échantillons dans ce contexte-là.
Ok.
Franck, tu as parlé d'un instrument qui est Sherlock. On peut également citer, je crois, Mastcam, qui sont deux instruments vraiment dédiés à scruter vraiment la minéralogie de la surface de Mars. Est-ce que ce sont vraiment juste des instruments qui ne sont là que pour aider à récupérer les échantillons, à dire oui, ça c'est intéressant, ça ce n'est pas intéressant, ou on peut quand même espérer quelques découvertes ou une analyse un peu plus fine de certaines roches sur Mars, Suzanne?
Bah, on va pas échantillonner tout, hein. Avec que 30,
quand même.
Avec que 30 petits cailloux. Bon, pour 30, pour un géologue, c'est pas beaucoup, hein.
Oui, parce que tu dis 30 parce que ça va être le nombre d'échantillons, faut le préciser, c'est ça, ça va être le nombre d'échantillons qu'on espère encapsuler. Comment ça marche justement cette collecte d'échantillons et ce renvoi? Est-ce que tu peux, sur Terre, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
En fait, il y a une espèce de perceuse, foreuse, qui va prendre les carottes. Mmh. Et ces carottes-là vont être stockées dans des tubes, qui va ensuite être stockées dans un enceinte.
Ouais.
Et en fait, chaque échantillon qu'on va prendre va avoir un doublon. Donc, il va avoir toujours deux, au cas où. Et après, en fait, les échantillons ne vont pas rester dans le châssis pour la récupération. Ils vont être posés. Donc tout un tas d'échantillons va poser, en moitié va rester dans le châssis, mais en moitié qui va être posé. Pourquoi poser, pourquoi pas rester? C'est parce que en fait il faut envoyer un autre rover pour les chercher. Donc c'est plus simple s'ils sont pas encombrés par un système difficile à récupérer des choses. Donc ils vont les poser dans un endroit, et donc l'idée c'est un autre rover qui vient tic 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 avec des bras, qui va récupérer, mettre à l'intérieur, qui va ensuite aller dans un fusée, qui va décoller. Mais ce rover-là et ce fusée-là, ce rover-là va être très simple. Donc ça veut dire que c'est pas le gros engin, hein, qu'on voit là de Perseverance ou Curiosity. Ça va être très simple, très léger, pour qu'en fait la plupart de poids va être dans le fusée pour le décalage. Et ben en fait je retiens pas le chiffre pour combien de grammes on n'a pas un,
j'ai vu 500 grammes dans le truc.
Ouais, ça se chiffre en centaines de grammes, c'est, moi je me rappelle à peu près.
C'est ça.
Et donc c'est pas beaucoup, hein. Et donc mais quand même il faut un fusée pour décoller. Donc et par exemple pour dans les centaines de grammes pour faire les analyses terrestres dans les laboratoires, normalement pour quand on prend des cailloux sur le terrain, on prend des centaines voire kilogrammes de roche pour pouvoir mettre dans une broyeuse et ensuite l'analyser. Donc déjà quand ces échantillons-là arrivent sur Terre, là par exemple des échantillons lunaires, on a ramené des centaines de kilos. Et là déjà il y a un ordre, les gens il faut qu'ils posent des demandes pour pouvoir les accéder et les analyser. Et là on va avoir très peu d'échantillons. pour vraiment des analyses très poussées. Donc, ces échantillons-là vont être très précieuses.
Comment va se faire le choix des échantillons? Parce que Persévérance, en effet, va atterrir dans un cratère où on pense qu'il y a eu de l'eau liquide. Ça a été choisi pour cette raison. Et est-ce que, du coup, ce sera uniquement des carottes et des forages dans ce cratère ou est-ce qu'il va se balader ailleurs?
Non, il va. En fait, dès que j'ai compris, en fait, ils ont des sites qu'ils ont déjà identifiés dans le cratère, au bord de ce fameux delta. Et après, le rover va sortir, il va grimper sur le rempart de cratère et essayer de se diriger vers un autre endroit où, en fait, les images spectrales de la surface ont démontré qu'il y a d'autres roches encore plus anciennes que celles qui se trouvent dans le delta. Donc, on peut dire la croûte ancienne de Mars, vraiment avant l'époque où le delta a été formé. Donc, il va essayer dans un deuxième temps, parce qu'on découpe les missions dans normalement une mission nominale et ensuite une mission plus longue. Et donc, dans un deuxième temps, il va essayer de chercher ces roches-là qui sont un peu différents et qui peut avoir, qui peut nous donner plus d'infos sur vraiment très 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 loin dans le passé, quoi. Donc c'est très ambitieux. C'est très ambitieux d'essayer d'échantillonner des roches qui viennent plutôt 2,5 milliards d'années jusqu'aux 3,5 milliards d'années. Hein. Donc ça, si toutes les étapes de mission réussissent, on va vraiment avoir des bouts de cailloux et tous les jeux vont se battre pour les avoir, ça c'est sûr.
Oui, à des âges géologiques différents en plus, donc on va pouvoir voir vraiment même l'évolution de la surface et de la géologie de Mars. Ouais, bel objectif. Hein.
Ah oui, hein.
Est-ce qu'il n'y a pas un risque que les échantillons ne soient pas récupérés, par exemple, parce que enterrés en partie par le sable, enfin je veux dire la poussière qui vient s'accumuler dessus? Est-ce que l'idée c'est de les regrouper au même endroit ou de les semer le long d'un itinéraire particulier?
Oui, c'est déjà étudié, ouais. Oui.
Oui, j'imagine.
On va pas les perdre des échantillons déjà qu'il n'y en a que 500 grammes.
Oui. Oui, comme je dis, il y aura un doublon déjà de chaque échantillon.
Ouais.
Donc, au cas où, hein. Parce que bon, le rover, on peut pas toujours espérer qu'il fonctionne parfaitement en tout temps. Hein. On peut avoir toujours des problèmes. Hein. Par exemple, Curiosity a eu des dommages autour des rues qu'on n'a pas prévus. Mmh. On peut toujours avoir l'imprévu au cours de route. C'est pour ça qu'ils ont fait un doublon. Ils vont faire un doublon et ils vont essayer de poser pas un seul endroit, mais plusieurs endroits. Bon, la poussière qui accumule, on a déjà une idée de le taux d'accumulation, donc ça va pas être super gênant. On n'a pas le GPS sur Mars, donc si on avait notre smartphone sur Mars, ouais. Ça ne marche pas. Hein. mais par contre, on sait très bien où sont des sondes et on peut, depuis l'orbite, voir en fait le parcours de rover pour vraiment si le rover pose les échantillons à un moment donné, on peut le carter, ça va être très bien repéré par des caméras aussi. Et donc non, ils vont pas laisser n'importe comment et n'importe
où. Ouais, j'imagine.
Et puis je pense qu'on peut dire que pour enfouir un objet sur Mars, ça prend beaucoup plus de temps que sur Terre parce que l'atmosphère étant beaucoup moins dense, la pression qu'exerce le vent sur les choses et sur les est moins importante. Et même si le vent arrive à soulever les grains, comme on a pu s'en apercevoir, on dépose quelques micromètres par an à la surface. Voilà, on a du temps. Je pense que Mars nous laissera le temps de venir récupérer
tout ce qu'il faut.
Les échantillons sans qu'ils soient recouverts et qu'ils disparaissent. Voilà. Mm.
Fin de la première partie de ce podcast. Vous avez déjà pu en savoir un peu plus sur Mars, sa géologie et la mission Mars 2020 avec le rover Persévérance.
On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie, toujours avec Suzanne Conway et Franck Montmessin, ainsi que Romain Isnard. Vous pouvez retrouver le Labo des Savoirs en podcast sur toutes les plateformes d'Internet, ainsi que sur labodessavoirs.fr. Merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.
Yeah, I know you're not the problem, but I only right.
Hey, I'm trapped in a room.